Douglas Gillison, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que le détournement d'argent par la société Congo Construction Company, c'est le scandale du siècle ?
Effectivement, on peut dire que c'est une caisse noire qui se cachait derrière le contrat du siècle. C'est en 2007-2008 que des grandes entreprises chinoises ont fait un accord, ont passé un accord avec le gouvernement congolais pour troquer de l'infrastructure contre les minerais de très grande valeur du Congo. On en parlait comme du contrat du siècle. Mais derrière, il y avait effectivement un mécanisme de corruption qui se cachait et on en parle comme le scandale du siècle aujourd'hui.
Et dans ce volet de l'enquête Congo Hold Up, vous révélez que deux gros opérateurs chinois, CREC et Power China, ont versé des pots de vin au premier cercle de l'ancien président Kabila, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Dans quel but ?
Eh bien, après les élections de 2011, M. le président Kabila, il avait fait campagne sur les perspectives que représentait le contrat du siècle pour se faire réélire, mais une fois réélu, c'est plutôt les Chinois qui avaient davantage besoin de lui que le contraire. Et c'est en ce moment-là qu'on perçoit le flux de pots de vin pour en faire en sorte que l'Assemblée nationale adopte les exonérations fiscales nécessaires pour faire vivre le projet. Et aussi, il y avait effectivement un barrage hydroélectrique qui a permis l'exploitation des minerais. Et tout cela devait être négocié et adopté.
Alors, quels étaient les intermédiaires par où passait l'argent ?
Il y avait une caisse noire qui s'appelait The Congo Construction Company qui a reçu des sommes aux alentours de 65 millions de dollars sur 5 ans, dont la majorité ont été refilées au président, à sa famille, aux entreprises détenues par ses proches.
Mais comment arrivait-il concrètement cet argent au destinataire final ? Est-ce qu'il arrivait sur des comptes à la banque BGFI ou est-ce qu'il était retiré sous forme de cash ?
Eh bien, nous pouvons répondre à cette question grâce à la plus grande fuite de données de l'histoire de l'Afrique. C'est justement, effectivement, comme vous le dites, des virements internationaux ont été versés sur les comptes au nom de sociétés et d'individus ou retirés en cash par des individus liés au président.
Est-ce que vous avez sollicité les réactions des sociétés que vous mettez en cause ?
Oui, et rares ont été ceux qui ont choisi de répondre.
Je pense notamment aux opérateurs chinois, CREC, Power China et à l'opérateur sino-congolais Sicomine.
Pas de réponse. Aucune de ces trois sociétés.
Et du côté congolais ?
Eh bien, le président lui-même n'a pas répondu. On a eu quelques réponses et des échos auprès de certains individus impliqués dans ce dossier, notamment l'actuel ministre pour l'aménagement du territoire dans le gouvernement du président Félix Tshisekedi, M. Guy Luando, qui a nié avoir été au courant des agissements de ses partenaires en affaires. Il était un avocat, d'après lui, qui a fourni des services, simplement.
60 millions de dollars de pots de vin éventuels sur un contrat de 6 milliards de dollars, ça veut dire que 1% de la valeur totale du prêt s'est transformé en pots de vin. Est-ce que c'est un cas unique dans ce type de contrat entre deux États ou est-ce que c'est la norme ?
Eh bien, on peut dire que c'est les deux. C'est un cas unique étant donné l'ampleur et l'importance, l'envergure de ce contrat, parce que cela représentait une perspective pour le Congo de sortir de la pauvreté et de la misère de l'après-guerre. Mais non, effectivement, dans les pays en développement qui dépendent des revenus des industries extractives, ce genre de corruption est très courant.
Donc 1% de pots de vin sur la valeur totale d'un contrat, c'est malheureusement un cas qui n'arrive pas seulement entre la Chine et le Congo-Kinshasa.
Non, certes non.
Mais là, pour une fois, vous avez des éléments de preuve qui sont très intéressants.
C'est ça. On a pu voir dans les détails les plus minutieux tout ce qui se passait au jour le jour. Et nous estimons qu'avec ces éléments-là, les autorités, les instances internationales et congolaises disposent largement de quoi ouvrir des enquêtes et intervenir. Des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs.
C'est-à-dire de quel côté précisément ?
Une grande majorité des pots de vin dont on parle dans ce rapport sont passés par des banques à New York. Des banques internationales telles la Citibank et la Commerzbank avaient eux aussi des devoirs de vigilance pour les contrôles anticorruption qui ont échoué, à notre avis.
Du côté de Kinshasa, Madame la ministre de la Justice vient d'annoncer qu'une instruction va être ouverte au plus vite pour faire la lumière sur toutes les accusations de détournement de fonds révélées par Congo Hold Up. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une première étape. On va attendre de voir la suite.
Vous êtes sceptique ?
Non, je ne dis pas que nous sommes sceptiques. Je dis qu'il faut attendre de voir. Il faut donner aux Congolais la chance de répondre.
Et du côté de Pékin, puisque c'est de l'argent chinois qui a été finalement détourné, pensez-vous qu'il peut y avoir des réactions ?
Oui, mais dire dans quelle forme ces réactions vont venir, il est bien difficile, étant donné que la Chine est une société fermée. Mais oui, il peut y avoir des séquelles de leur côté, oui.
Le contrat du siècle qui a été signé en 2008, hein, 6 milliards de dollars de prêts chinois au Congo-Kinshasa en échange de son minerai, est-ce qu'il n'a pas permis tout de même, Douglas Gillison, de développer un certain nombre d'infrastructures au Congo-Kinshasa, dans la capitale et en province ?
Ah, c'est certes le cas. Mais oui, il y aura une quantité d'infrastructures qui va être mise sur pied au Congo grâce à ce projet. Mais cela fait l'objet d'une controverse, d'un contentieux au Congo pour l'instant. Certains disent que le contrat est lyonnais et que les Congolais ont payé bien plus que ne valent les infrastructures. Mais tout cela, ça n'est pas pour nous de dire qui a raison, qui a tort.
Depuis le 19 novembre, Congo Hold Up multiplie les accusations de détournement contre l'ancien président Kabila. Que répondez-vous à ceux qui affirment que vous faites du Kabila bashing en vue de la présidentielle de 2023 et que vous faites peut-être le jeu de l'actuel régime du président Félix Tshisekedi ?
D'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un membre du cabinet de Félix Tshisekedi qui figure dans notre rapport. Mais deuxièmement, on est en 2021, il n'y a jamais le moment de parler des choses qui touchent au pouvoir si effectivement on va dire que 2 ans avant les élections, on fait le jeu de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui vont se présenter. Mais il s'agit pour moi ici non pas de faire la police des Congolais, mais plutôt pour remettre les instances internationales, les entreprises internationales devant leurs responsabilités à eux. Parce que, en dernière analyse, c'est les banques internationales et les entreprises internationales qui ont échoué dans leurs responsabilités envers le peuple congolais.
Alors, à l'ONG The Sentry, qui a été cofondée par l'ancien haut fonctionnaire américain John Prendergast et l'acteur américain George Clooney, vous vous battez pour que ce type de pratique ne se renouvelle plus. Mais qu'est-ce que vous prenez exactement ?
Nous prenons des enquêtes de tous bords, d'abord au Congo mais aussi aux États-Unis, pour que toute la lumière soit faite sur la question de vigilance de la part des banques et des autorités. Est-ce qu'il y a eu blanchiment d'argent ? Est-ce qu'il y a eu usage de faux ? Est-ce qu'il y a eu détournement de fonds publics ? Est-ce qu'il y a eu défaillance dans les contrôles internes de Citibank et de Commerzbank ?
Ce que vous dites, c'est qu'il y a un manque de vigilance des grandes banques d'affaires internationales.
Quand on peut virer des millions de dollars d'une grande entreprise internationale à une société qui est effectivement une caisse noire, sur la foi de documents qui n'existent pas, sans que personne ne pose des questions, oui.
Douglas Gillison, merci.